travailleurs, chers amis, chers camarades. Cette campagne électorale est marquée par les attentats du 13 novembre, parce qu'ils nous ont tous bouleversés et parce que, politiquement, ils ont accéléré la droitisation de la société, en attisant encore un peu plus les peurs, en développant des réflexes de repli sur soi et de rejet de l'autre. Depuis ces attentats, nous assistons à une surenchère sécuritaire entre le gouvernement, la droite et le Front National. État d'urgence prolongé pour 3 mois et reconduit peut-être encore pour 3 autres mois. Changement de la Constitution pour accroître les pouvoirs de la police, extension de la légitime défense pour les forces de l'ordre, armement des policiers en dehors de leurs heures de service, Hollande aligne les mesures sécuritaires. Et pas gêné, il va jusqu'à puiser dans le programme du Front National en reprenant à son compte la déchéance de nationalité pour les binationaux accusés de terrorisme. Cette dernière mesure est proprement ridicule. Est-ce que l'on fera peur aux terroristes en les menaçant d'être déchus de leur nationalité ou en les menaçant d'être expulsés? Évidemment non. Mais cette mesure, elle est significative de la course de vitesse qui se joue entre le Parti Socialiste, la droite et le Front National. C'est à qui fera le plus de démagogie sécuritaire? C'est à qui fera le plus de perquisitions, d'assignations à résidence? C'est à qui expulsera le plus d'imams? C'est à qui fermera le plus de mosquées salafistes, quand bien même leur responsabilité dans les attentats terroristes n'est pas prouvée? Nous ne sommes les défenseurs d'aucune religion. Nous sommes communistes et nous pensons, comme Marx, que la religion est l'opium du peuple et sert à la conservation de l'ordre existant. Et nous combattons particulièrement toutes les idées qui rabaissent les femmes et ce qu'on entend sur les prises de position de quelques-uns de ces imams salafistes, sur les injonctions qu'ils font aux femmes de se voiler, nous révoltent. Mais nous dénoncerons cette escalade démagogique où il faut faire du chiffre à tout prix. Nous dénoncerons cette politique qui, au lieu de combattre les divisions, la peur et le racisme, cultive la méfiance, conduit aux pires amalgames et conforte ceux qui veulent faire croire à une guerre de religion. Cette politique, elle va dans le sens recherché par les terroristes eux-mêmes. Et elle fait ici le jeu de la famille Le Pen. Oui, ce sont les Le Pen qui en profitent. Le grand-père, pour demander la peine de mort avec décapitation. La fille, pour demander de rapatrier les migrants. Et la petite fille, pour distiller son poison sur les musulmans qui ne pourraient pas avoir le même rang que les catholiques. Ces mesures ne seront pas seulement inefficaces contre le terrorisme, elles vont aggraver le climat nauséabond qui préexistait aux attentats, où les actes islamophobes se multipliaient déjà, où de petits groupes d'activistes passaient à l'action pour tabasser tel ou tel, parce qu'il est étranger ou suspecté de l'être par son nom, sa couleur de peau ou ses signes religieux. Depuis le 13 novembre, les terroristes ont eu plus que le temps de se cacher, de changer d'identité et de faire disparaître les preuves. Et les opérations de police qui se déroulent aujourd'hui pourrait se dérouler dans un cadre tout à fait normal. Mais on continue de nous vendre l'état d'urgence pour combattre le terrorisme. Mais l'état d'urgence, aujourd'hui, il sert surtout de prétexte pour interdire des manifestations et pour faire taire des voix dissidentes. Les manifestations de solidarité avec les migrants ont été interdites. Les manifestations contre la COP21 l'ont été aussi, alors même que tous les rassemblements de foule sont autorisés, que les marchés de Noël ouvrent, que les grands magasins et les parcs d'attractions tournent, alors que la COP21 se réunit. Eh bien, c'est un déni de démocratie. Alors, non à cet état d'urgence qui sert à interdire les manifestations, à assigner les militants à résidence et à arrêter les manifestants qui braveraient l'interdit. Non à cet état d'urgence qui sème la suspicion généralisée. Tout le monde s'inquiète. s'inquiète d'une possible victoire de Marine Le Pen, ici, de celle de Marion Maréchal Le Pen, en PACA. Et voilà donc le Parti Socialiste et Valls sonner le branle-bas de combat contre le Front National. Mais il y a 3 semaines, Hollande appelait Marine Le Pen à l'Élysée pour écouter ses conseils. La semaine dernière, elle était invitée à la commémoration des victimes de l'attentat comme représentante de toute la nation. La réalité, c'est que le gouvernement a fait sienne une partie de la politique du FN, la fermeture des frontières, l'arrêt de l'accueil des migrants, et toutes ces gesticulations autour des mosquées sont là pour donner des gages à l'électorat le plus réactionnaire et raciste, et cela revient à servir la soupe au FN et à conforter toutes ces idées infectes. Et à qui la faute ? Et à qui la faute si dans cette région, le Front National est aussi haut ? Vous le savez bien, une partie de l'électorat du Parti Socialiste et du Parti Communiste s'est détournée de ces partis et se fourvoie en votant pour le Front National. Pendant des décennies, ces électeurs sont restés fidèles aux socialistes et aux communistes malgré les reniements et les abandons de ce qu'ils considéraient comme leur parti. Et ils en ont avalé des couleuvres, avec des Guimolet, avec des Mitterrand, avec des Jospin. Et bien là, la coupe est pleine. Avec ses mesures anti-ouvrières et ses cadeaux au patronat, Hollande a fini d'écœurer jusqu'à son électorat le plus fidèle. Ce n'est pas la division de la gauche qui fait le lit du Front National dans la classe ouvrière. Ce sont les trahisons du Parti Socialiste et du Parti Communiste. Alors, dans la lutte contre les idées infectes du Front National, le Parti Socialiste est une planche pourrie depuis fort longtemps. Et Éric l'a montré, le summum du ridicule est atteint quand la droite elle-même se pose en rempart contre le Front National. Quand un Xavier Bertrand ou un Estrosi se posent en barrage des idées du FN. Alors, si au second tour, on se retrouve, comme les sondages l'indiquent, avec un Xavier Bertrand contre une Le Pen, on n'aura plus que le choix entre la peste ou le choléra. Et nous, lutte ouvrière, nous voterons contre les deux en votant blanc. Car nous n'avons pas à choisir lequel des deux prendra des mesures anti-immigrés. Nous n'avons pas à choisir lequel d'entre les deux prendra des mesures anti-ouvrières. Et parce que surtout, il faudra se battre, il faudra se préparer à riposter, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Oui. Le fait que le FN devienne majoritaire dans cette région est le signe d'une évolution réactionnaire de la société. Non seulement le Parti Socialiste se défile derrière ses responsabilités, mais il a le cynisme d'en faire un argument pour que l'on finisse par revoter pour lui. C'est de la manipulation. La même manipulation politique que l'on a subie en 2012 avec le tout sauf Sarkozy. Tout cela pour nous faire croire qu'il y a un gouffre séparant tous ces partis. Mais tout en étant rivaux, le Parti Socialiste, les Républicains et le Front National sont profondément complices de l'ordre social capitaliste. Ils se concurrencent, mais ils s'accordent pour jouer cette comédie électorale qui cache ce qui domine réellement la société, la grande bourgeoisie et le grand capital. Loin de bouleverser le système politicien, l'arrivée du FN comme troisième larron ne fait que renouveler le simulacre de l'alternance. À la fausse alternance gauche-droite, on va maintenant assister à la fausse alternance entre l'UMPS d'un côté et le Front National de l'autre. Jusqu'à présent, ils se passaient la balle à deux. Désormais, ils se passeront la balle à trois. À tous ceux qui sont légitimement inquiets de la montée du FN, nous disons que l'influence du FN dans la classe ouvrière provient du désarroi engendré par la trahison et les reniements de partis qui prétendaient représenter les intérêts des travailleurs. Elle provient de ce que les travailleurs ne se battent pas sur leur terrain, de ce qu'ils ne réagissent pas face à toutes ces attaques patronales et gouvernementales. Elle provient du recul de la conscience de classe. Car le Front National, comme les autres, défend les intérêts du patronat, comme les autres, et même plus que les autres, ils nous jouent le coup de l'esprit national. Mais l'esprit national est contraire aux intérêts des travailleurs. Faire croire que nous sommes tous dans le même bateau et que ce qui est bon pour Dassault, Total ou Bettencourt est forcément bon pour les travailleurs a toujours été un piège pour les exploiter. Ce n'est ni vrai en politique intérieure ni en politique extérieure. Nous nous présentons dans cette élection pour dire contre tous ces politiciens défenseurs de l'ordre bourgeois que la société est organisée en deux classes sociales, deux classes aux intérêts opposés et dont la situation respective est déterminée par un rapport de force. Lorsque la classe ouvrière se fait craindre, elle peut arracher des avancées. Lorsqu'elle ne se bat plus, elle recule fatalement et avec elle tout le reste de la société. Nous nous adressons aux travailleurs conscients de cela pour qu'ils s'expriment dans ces élections, pour qu'ils fassent entendre le camp des travailleurs. Le camp des travailleurs conscients d'avoir à mettre en avant les revendications immédiates, dont Eric a parlé, mais conscients aussi d'avoir à mettre en avant les valeurs de la classe ouvrière et les perspectives qu'elle porte de révolutionner toute la société. Les bourgeois nous ressassent en permanence leurs valeurs républicaines. Liberté, égalité, fraternité, contre toute réalité. Eux-mêmes n'y croient pas un instant. En face, le camp des travailleurs se tait. Les travailleurs, y compris les plus conscients, ne mettent plus en avant les valeurs que leur classe représente. Alors que la bourgeoisie a toujours prôné l'individualisme, la concurrence et le chacun pour soi, les travailleurs ont besoin de solidarité, d'organisation et de dévouement. Non seulement pour se battre contre l'exploitation, mais tout simplement pour survivre. Tout en menant le combat quotidien contre le travail des enfants pour la journée de travail de 8 heures, les militants défendaient l'idée de l'émancipation sociale, du progrès de toute la société, d'un monde libéré des superstitions et des préjugés, d'un monde libéré aussi de l'emprise des églises qui ont toujours été du côté des puissants et de l'ordre établi. L'internationalisme a toujours fait partie du capital politique du mouvement ouvrier. C'est en intégrant dans leur rang tous les travailleurs, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur langue, leur religion, leur couleur de peau, que les travailleurs ont gagné leur meilleur combat. Ce faisant, ils ont fait reculer les idées racistes et xénophobes dans toute la société. Et l'honneur du mouvement ouvrier a été de militer contre toutes les formes d'oppression, pour l'émancipation des femmes, contre l'esclavage, pour la libération des peuples colonisés, contre l'apartheid. Ce capital politique a été peu à peu dilapidé par le Parti communiste français, qui en devenant stalinien est aussi devenu nationaliste et a remplacé le drapeau rouge par le drapeau tricolore et l'international par la Marseillaise. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le PCF a versé dans le chauvinisme et les attaques anti-allemandes. Ensuite, les militants et le milieu ouvrier qui l'influençaient ont été nourris aux diatribes de marché contre une Europe accusée de piétiner la souveraineté de la France ou aux appels pour le produire français. Et aujourd'hui, avec son obsession anti-allemande et sa propagande cocardière, un Mélenchon en remet une louche. Mais c'est bien à Marine Le Pen que cela profite. Alors, sans attendre les luttes qui feront de nos idées une force capable d'ébranler la société bourgeoise, il faut se battre à nouveau pour diffuser les idées internationalistes et les valeurs propres au mouvement ouvrier parmi les travailleurs. Les idées de la lutte de classe qui constituent la seule boussole pour indiquer les intérêts des travailleurs. Il est vital que nous retrouvions la conscience de nos intérêts communs, par-delà la diversité de nos métiers, de nos origines, de nos statuts. Il est vital que nous, les travailleurs, quelle que soit notre origine, nous nous sentions une classe unie par nos intérêts pour nous défendre contre cette minorité qui nous exploite et plonge le monde dans la barbarie. On nous rabâche que notre identité dépend de notre origine, de notre nationalité ou de notre confession. Mais un aspect essentiel de notre vie et de notre identité, c'est que nous sommes des travailleurs, des ouvriers, des chômeurs, des employés, des gardiens, des aides-soignants, des caissières, des enseignants. Notre condition de salarié et d'exploité nous unit. Par-delà nos différences, alors il faut en être conscient. Il faut serrer les rangs, rejeter ceux qui veulent dresser un mur entre nous et affirmer notre conscience d'appartenir à une seule et même communauté, la communauté des travailleurs et des exploités, une classe sociale qui n'a rien de commun avec tous ceux qui nous appellent aujourd'hui à l'union nationale, car ce sont ces mêmes dirigeants qui nous portent les coups, ici, en France. Loin des calculs électoraux, il faut montrer aux nôtres, y compris à ceux qui s'égarent en regardant vers le Front National, qu'il y a encore, dans la classe ouvrière, des femmes et des hommes qui connaissent la seule voie pour lutter contre les injustices et les inégalités de la société, lutter contre la bourgeoisie, faire reculer l'exploitation, pour finir par la supprimer totalement en bâtissant une société fondée sur la propriété collective des richesses et des moyens de production, une société communiste. Il faut refuser le cours réactionnaire et guerrier caché derrière l'unité nationale, le drapeau tricolore et la Marseillaise. À la suite des attentats, Hollande a pris les habits de chef de guerre et de protecteur de la nation, et il a décidé d'intensifier les bombardements sur la Syrie. Mais cette guerre contre le terrorisme n'a pas commencé le 13 novembre. Elle dure depuis 14 ans. Et force est de constater que les dirigeants des grandes puissances échouent à faire reculer le terrorisme. Aujourd'hui, en Afghanistan, les talibans sont de retour. L'Irak et la Libye sont devenus des fabriques pour djihadistes. Et cela fait 4 ans que la Syrie est ravagée par la guerre. Quant aux attentats, ils n'ont jamais cessé. Avant de frapper Paris, c'est la Turquie, le Liban, l'Égypte, la Tunisie que les terroristes avaient ensanglantés. Ensuite, ils ont frappé au Mali, en plein cœur de Bamako, alors que l'on nous expliquait que les terroristes avaient été vaincus dans ce pays. Et encore après, ils ont sévi à Tunis et en Égypte. Aujourd'hui, les dirigeants impérialistes reconnaissent des lacunes et des erreurs dans leur guerre contre le terrorisme. Ils sont d'ailleurs bien forcés de reconnaître que Daesh est né de la guerre menée en Irak par les États-Unis et le Royaume-Uni en 2003, qu'il a été formé par les sunnites exclus du nouveau régime irakien par les Américains, et qu'il a prospéré sur le délitement de l'État irakien et libyen suite à leurs interventions. Mais cette fois, nous disent-ils, ils s'y prendront mieux et ils ne referont pas les mêmes erreurs. Ils formeront une grande coalition internationale et réussiront mieux militairement et politiquement. Eh bien, avec la Turquie qui a abattu un avion de combat russe, cela commence plutôt mal. Et c'est sans oublier le Qatar et l'Arabie Saoudite qui comptent parmi les alliés de cette coalition, mais dont tout le monde sait qu'ils financent et qu'ils forment des djihadistes dans la région. Et politiquement, la solution envisagée pour stabiliser la Syrie consiste à s'appuyer sur le régime féroce de Bachar al-Assad, qui a attaqué son peuple à l'arme chimique, qui a tué et fait disparaître des dizaines de milliers d'opposants. Peut-on lutter contre des monstres en s'appuyant sur des régimes tout aussi monstrueux? En agissant ainsi, ce n'est pas à la victoire contre le terrorisme qu'il nous mène, mais à une société de plus en plus barbare. Encore une fois, ils sont en train de poser des bombes à retardement dans une région qui explose déjà, de toutes parts. Quant aux bombes larguées sur la Syrie, et dont on nous dit qu'elles visent des centres d'entraînement ou des centres de commandement de Daesh, elles tombent sur des villes peuplées, elles tombent sur des populations civiles, sur des pauvres, justement les seuls qui n'ont pas réussi à fuir Daesh. Qui peut croire que ces bombes ne font pas, elles aussi, des centaines, des milliers de victimes innocentes? Non, la guerre des grandes puissances n'éradiquera pas le terrorisme, elle l'alimentera une fois de plus en nous enfonçant dans un engrenage de plus en plus sanglant. Oui, Daesh exerce une des dictatures les plus féroces qui soient dans les régions qu'il domine en Irak et en Syrie. Leurs victimes sont autant et même plus musulmanes que chrétiennes. Preuve, s'il en fallait, qu'il ne s'agit ni d'un choc des civilisations, ni d'une guerre de religion, mais d'une lutte pour le pouvoir et pour les richesses d'une région riche en pétrole. Il ne faut pas s'étonner que 30 000 djihadistes parviennent à faire leur loi sur un territoire aussi vaste et qu'ils résistent aux attaques d'une coalition internationale. C'est le résultat de toutes ces politiques tordues. C'est le produit des rivalités des grandes puissances qui jouent chacune leur propre jeu, qui ont des intérêts multiples dans la région et qui s'appuient un jour sur les uns, un jour sur les autres. Le terrorisme est le fruit pourri de l'impérialisme. À la veille de la Première Guerre mondiale, Jean Jaurès disait « Le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuée porte l'orage. » Eh bien, on peut dire aujourd'hui que le capitalisme porte en lui le terrorisme, comme la nuée porte l'orage. Eh bien, on ne peut pas combattre l'un sans combattre l'autre. Pour sortir de ce bourbier du terrorisme et des guerres, il n'y a pas d'autre perspective que de faire table rase de ce monde inégalitaire, injuste et fou. Et pour commencer, il faut dénoncer une politique qui nous enfonce. Il ne faut pas cautionner, il ne faut pas aider ces dirigeants qui nous emmènent tout droit dans le mur. Et il faut défendre la perspective de renverser le capitalisme parmi les travailleurs. Le danger ne vient pas de l'extérieur. Il ne vient pas d'Afrique ou du Moyen-Orient. Il ne vient pas de telle ou telle religion, de telle ou telle communauté. Il vient de l'intérieur de notre système économique qui engendre le chômage, les inégalités, les injustices, la délinquance, les guerres. Un monde où 67 familles possèdent l'équivalent de ce qu'ont pour survivre 3,5 milliards de femmes et d'hommes. Un monde où l'Afrique et le Moyen-Orient sont des eldorados pour les capitalistes, mais des enfers pour leur population, ne peut qu'engendrer des monstruosités. Le capitalisme est en faillite, il est au bout du rouleau. Et on le voit, le règne de la bourgeoisie, c'est non seulement l'exploitation et la dictature des actionnaires sur la société, mais c'est aussi cette barbarie du terrorisme qui se répand partout dans le monde. C'est aussi un cours de plus en plus inhumain. Une société de plus en plus inhumaine, dont les migrants sont les premières victimes. C'est passé au second plan de l'actualité. Mais chaque semaine, des dizaines d'enfants, de femmes et d'hommes meurent pour essayer de traverser la Méditerranée. Les survivants qui ont réussi à poser un pied sur le continent se heurtent encore aux murs et aux barbelés qui hérissent désormais l'Europe. Ils sont arrêtés, bloqués, forcés d'attendre dans des conditions infâmes quand ils ne sont pas internés dans des camps de rétention. Relâchés, ils reprennent leur marche forcée ou s'en remettent aux passeurs, risquant encore de mourir asphyxiés ou d'être parqués dans des bidonvilles comme celui de Calais. En leur assurant la liberté de circulation et d'installation, les réfugiés se répartiraient d'eux-mêmes à l'échelle de toute l'Europe. Ils pourraient s'appuyer sur des membres de leur famille et sur toutes les bonnes volontés qui existent. Mais non, pour ne pas donner prise aux critiques de la droite et de l'extrême droite, le gouvernement socialiste barricade les frontières et il aggrave les souffrances de centaines de milliers d'enfants, de femmes et d'hommes. Tout est ignoble dans cette politique. Ce tri qui est fait entre les vrais réfugiés qu'on pourrait accepter et les migrants économiques qu'il faudrait refuser. Ces centres appelés hotspots qui sont une façon de sous-traiter les migrants aux pays pauvres, à la Grèce, au Liban, à la Jordanie ou à la Turquie, comme si pour ces pays, ce n'était pas un problème autrement plus compliqué à résoudre que pour les pays riches comme la France ou l'Allemagne. Exactement comme les municipalités bourgeoises payent pour ne pas construire de logements sociaux sur leur territoire, les grandes puissances payent pour que ces centres soient le plus loin de chez eux. Il n'y a pas besoin d'être révolutionnaire pour dire que la France peut faire mieux qu'accueillir les 30 000 réfugiés sur 3 ans qui ont été promis par le gouvernement. Cela fait moins de réfugiés qu'il n'existe de communes dans le pays. Et tout le monde l'a rappelé. À d'autres époques, où la situation économique n'était pas plus florissante, la France a su accueillir, entre guillemets, les réfugiés de la guerre d'Espagne, en tout cas leur donner l'asile. Elle a su donner l'asile aussi aux boat people vietnamiens, ou encore aux millions de pieds noirs qui est venu en France en catastrophe à la fin de la guerre d'Algérie. Hier, le gouvernement, comme la droite et l'extrême droite, nous répétait jusqu'à la nausée qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Aujourd'hui, ils nous disent qu'accueillir les migrants représente un danger parce que des terroristes pourraient se glisser parmi eux. Ils vont maintenant faire passer des victimes de la barbarie pour des assassins potentiels. Eh bien, ça aussi, c'est une monstruosité. S'ils voulaient accueillir les migrants tout en vérifiant leur identité, mais qu'ils organisent leur asile, qu'ils organisent leur transport et la traversée de la Méditerranée, qu'ils organisent des ponts aériens comme ils l'avaient fait pour les boat people. Mais qu'on ne nous raconte pas n'importe quoi pour refuser ici l'asile aux migrants. Encore une fois, face à cette unanimité réactionnaire, il faut montrer qu'il y a des femmes et des hommes qui ne cèdent pas au repli sur soi et à la peur de l'autre. Qu'il y a des femmes et des hommes qui ne se trompent pas sur les véritables responsables de la situation. On ne se débarrassera de toute cette barbarie qu'en prenant le mal à la racine, c'est-à-dire à la domination de ce système économique fou. Alors, pour un monde débarrassé de l'obscurantisme, de l'injustice, poursuivons notre combat pour renverser le capitalisme et bâtir une société communiste, la seule issue pour l'humanité. Sous-développement, famine, crise économique, chômage de masse, pollution, les dirigeants actuels de la société, la grande bourgeoisie et ses sous-fifres politiques sont incapables d'apporter des réponses aux problèmes fondamentaux qui se posent aujourd'hui à l'humanité. Depuis l'ouverture de la COP21, ils se posent en sauveurs de la planète. Et on nous explique que tous les chefs d'État sont unis, mobilisés et bien conscients de l'urgence de la situation. Et c'est vrai! Ils savent tout du problème et des conséquences catastrophiques sur des millions de femmes et d'hommes. Et oui, ils ont fait de beaux discours aux accents lyriques et solennels. Mais cela ne fait qu'accroître le fossé entre leurs discours et leurs actes, et cela n'en est que plus révoltant. Même à imaginer que les 180 chefs d'État se mettront d'accord sur le papier pour limiter le réchauffement climatique aux 2 degrés reconnus par tous les experts comme nécessaires, ils seront incapables d'agir sérieusement. Et ils l'avouent. Ils l'avouent en expliquant qu'ils ne signeront pas d'engagement contraignant, ni pour leur pays, ni pour les grands groupes industriels qui sont les premiers pollueurs de la planète. Ils l'avouent encore en s'empaillant sur leurs responsabilités respectives et sur le niveau d'effort demandé à chacun. Non, les dirigeants des grandes puissances, les Obama, les Merkel, les Xi Jinping, ne feront rien de sérieux. Parce qu'ils ne feront rien si cela gêne leurs intérêts économiques, la rentabilité et la compétitivité de leur trust. Et regardez Hollande. Il se veut exemplaire en matière d'écologie. Mais avec Macron, il vient de remettre des bus sur les routes. Il continue de fermer des lignes de train secondaires. Il enterre le ferroutage. Il a donné son accord pour construire un second aéroport à Nantes, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Les dirigeants des grandes puissances ne bougeront le petit doigt que si cela peut rapporter de l'argent aux capitalistes. Que si Bill Gates, la BNP ou EDF trouvent le moyen de faire du business avec l'écologie. Ils veulent une écologie compatible avec le marché et favorable au profit. C'est ce qu'ils appellent l'écologie verte. Et oui, certains trusts peuvent en effet prospérer sur l'écologie. Et puis, avec l'écologie, ils peuvent toujours se faire de la publicité et s'asseoir dessus, comme on l'a vu avec la fraude à grande échelle de Volkswagen. Et souvenez-vous comment ont réagi les autorités européennes face à cette fraude de Volkswagen. Eh bien, au lieu de durcir les contrôles, L'Union européenne a assoupli les normes d'émission de gaz polluants pour les moteurs diesel. Autoriser les constructeurs à polluer, voilà la solution des dirigeants européens qui promettent aujourd'hui de tout faire pour sauver le climat. Et puis, il y a un aspect indécent dans l'organisation même de cette COP21. Dans ce grand barnum médiatique où 180 chefs d'État venus chacun dans leur avion privé sont reçus en grande pompe, dans la présence de centaines de firmes dont certaines font partie des plus grands pollueurs de la planète. Alors aujourd'hui, les déclarations sont belles, mais les faits sont têtus. Et ils montrent que ce n'est pas avec ce genre de dirigeants dévoués au capital que l'on protégera le climat. Faisons le choix de défendre une politique qui se place exclusivement sur le terrain de la classe ouvrière, c'est qu'elle est la seule classe sociale qui peut s'attaquer à la racine même des problèmes, à l'organisation capitaliste de la société. Mais pour en être capable, elle doit non seulement retrouver le chemin de la combativité, mais aussi celui de la conscience de classe. Faire en sorte que cette conscience de classe redevienne la boussole des travailleurs et le fond de notre politique. C'est notre raison d'être. Les événements d'Air France ont confirmé le caractère anti-ouvrier de tous les grands partis, du Parti Socialiste jusqu'au Front National. Mais ils ont aussi réveillé la conscience de classe dans le monde du travail. Sans qu'aucun parti politique, sans qu'aucun syndicat ne l'ait coordonné, l'écrasante majorité des travailleurs s'est unie derrière les salariés d'Air France et contre le torrent de boue dont ils ont été victimes. Cela a été une réaction élémentaire, un même sentiment d'indignation, d'injustice, de dignité bafouée. Cela a été l'expression d'un sentiment de classe. Mais entre un sentiment de classe et une conscience de classe, solide, forte, capable de résister aux pressions de la société bourgeoise et d'orienter les travailleurs dans les combats qu'ils ont à mener, il y a un gouffre. C'est ce gouffre que pourrait remplir un parti ouvrier présent largement dans les classes populaires, en incarnant dans toutes les situations politiques une politique propre aux travailleurs. C'est ce que nous visons. Et c'est tout le sens de notre participation aux élections en général. Que les travailleurs s'affirment de nouveau comme une force politique. Bien sûr, aujourd'hui, alors qu'on voit que les travailleurs sont dispersés, déboussolés pour certains, on comprend que cela ne se fera pas, ça ne sera pas un coup de baguette magique. Et ça ne se fera pas non plus en une élection. Ce processus peut prendre d'autres voies que celles des élections. Une révolte des travailleurs pourrait faire mûrir les consciences à une toute autre échelle et d'une toute autre façon. Mais il faut utiliser toutes les possibilités qui se présentent à nous pour progresser dans cette voie. Et là, dimanche prochain, il faut utiliser les élections régionales. Il faut que le sentiment et les intérêts de classe qu'ils recouvrent et que l'on a vu surgir lors des événements d'Air France trouvent une expression politique. Si les travailleurs ne s'érigent pas en force politique, c'est la bourgeoisie et les partis à son service qui garderont le monopole de la parole. Et leurs mensonges sur le coût du travail, sur la compétitivité, sur les 35 heures ou sur le code du travail auront libre cours. Eh bien, il faut que les travailleurs ne laissent pas leurs ennemis politiques parler à leur place. Chaque élection doit permettre de montrer qu'il y a des femmes et des hommes qui se revendiquent du camp des travailleurs. Alors profitons de ces élections régionales et de la présence des listes lutte ouvrière pour faire entendre le camp des travailleurs. Beaucoup, avant même les attentats, se désintéressaient de cette élection. Cela fait des années, des décennies, que le monde du travail vit et s'enfonce dans cette précarité. Et il y en a eu des élections. Et il y en a eu des alternances. Alors oui, les travailleurs ont eu des occasions de vérifier que les élections ne changeaient pas leur sort. Les attentats et ce sentiment d'être démunis face à une situation qui ne fait que se dégrader renforcent le sentiment que tout cela, ça ne sert à rien. Alors, beaucoup considèrent, à juste titre, ce scrutin comme dérisoire. Il n'y a pas à s'en étonner, mais il y a à convaincre. Il y a à convaincre que si, le vote pour les listes ouvrières a une utilité. Celle de montrer qu'il y a des travailleurs qui ont compris, comme eux, que les grands partis ne représentent pas leur camp. Celle de rassembler politiquement les travailleurs conscients d'avoir des intérêts de classe à défendre et une société à transformer radicalement. Oh, le problème n'est pas d'être entendu de ceux qui gouvernent, car ces gens-là se moquent de ce que les électeurs peuvent signifier dans les élections. Mais il s'agit d'être entendu du monde du travail. Il s'agit de montrer aux nôtres qu'une fraction ne se résigne pas, qu'il y a un camp auquel ils peuvent se rallier s'ils n'acceptent pas la situation. En déchirant ou en brûlant leur carte d'électeur, en affirmant qu'ils ne marchent plus dans tout ce cirque, certains croient pouvoir se venger des partis qui les ont trahis et exprimer leur opposition radicale au système. Ils se trompent, car en s'abstenant, ils se taisent. Et pire, leur abstention donnera d'autant plus de poids à tous ceux qui se déplaceront et qui iront voter pour le Parti Socialiste, pour les Républicains ou pour le Front National. Et au bout du compte, ces abstentionnistes seront récupérés par les vainqueurs. Oui, la réalité, c'est que pour changer la vie des travailleurs, il faut inverser le rapport de force entre les travailleurs et la bourgeoisie. Et cela, seules les luttes collectives peuvent le faire. Mais faute de pression collective et d'intervention directe des exploités sur ceux qui gouvernent, eh bien, toute la vie politique se résume à cela. Même aux yeux de ceux qui n'y croient plus, les élections constituent les principales échéances de la vie politique. Eh bien, il faut que les travailleurs les utilisent, non pas pour faire de la politique politicienne, mais pour faire entendre leurs intérêts contre ceux du grand patronat, pour affirmer leurs perspectives contre celles que veulent nous imposer les porte-paroles de la bourgeoisie. L'issue que nous indiquons aux travailleurs peut sembler lointaine, et en même temps, elle est inscrite dans la société elle-même. La lutte de classe n'est pas une invention des communistes révolutionnaires, c'est la vie elle-même, et c'est le moteur de l'histoire. Les travailleurs ne resteront pas indéfiniment l'arme au pied. Ce qui nous caractérise, c'est cette confiance dans la classe ouvrière, cette confiance dans les exploités et donc cette confiance dans l'humanité. C'est cette conviction que le capitalisme n'est qu'une étape dans l'histoire de l'humanité et qu'un jour, nous en tournerons la page pour en écrire une nouvelle, autrement plus enthousiasmante. Alors, ne craignons pas d'être minoritaires, portons haut nos convictions et soyons-en fiers. Et au travers de ces élections, continuons d'avancer dans la voie qui est la nôtre, celle de participer à la reconstruction d'un véritable parti qui représente les intérêts politiques du camp des travailleurs. Alors dimanche, votez et faites voter pour la liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs.